Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits, ravi de vous retrouver cette semaine pour parler de stratégie, pour parler de réflexion géostratégique autour des travaux d'un auteur qui ne dira peut-être pas grand-chose à la plupart d'entre vous. Il s'agit de Guy Brossolet. Guy Brossolet qui a réfléchi, travaillé sur les notions de guerre moderne, qui est aujourd'hui quelque peu oublié, même si son influence est assez diffuse et a été bien au-delà des frontières françaises. Pour évoquer les travaux de Guy Brossolet, je reçois cette semaine Christophe Maresca. Bonjour.
Bonjour Monsieur Noé.
Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes officier de gendarmerie, vous êtes formé par à Saint-Cyr, vous êtes breveté de l'école de guerre et c'est dans le cadre de votre formation à l'école de guerre que vous avez réalisé un travail sur Guy Brossolet sous la direction d'Hervé Couteau-Bégary travail qui a été qui a donné ensuite l'objet d'une étude qui a été publiée à l'Institut de stratégie comparée, qui est notamment dirigé par Martin Motte, qui s'intitule « Non-bataille, vraie guerre, Guy Brossolet ou les racines françaises des guerres modernes ». Travail que nos auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de Conflits avec l'ensemble des références, comme chaque semaine, pour les ouvrages que nous citons et pour les auteurs que nous invitons. Alors, je l'ai dit en début d'émission, Guy Brossolet n'est pas le stratège le plus connu. On va essayer de voir justement au cours de cette émission en quoi il est important, ce qu'il a apporté, et puis également les oppositions qu'il y a pu y avoir à ses thèses. Alors, quelques éléments biographiques pour débuter. Il est né en 1933. Il est décédé en 2015. C'est un militaire. Et il a donc une militaire de carrière, il est aussi passionné par la Chine, il parle le chinois, il traduit notamment quelques poèmes de Mao Tse-Tung, ce qui lui permet d'être un fin connaisseur de ce monde chinois, et puis comme beaucoup de personnes de sa génération, eh bien, il a servi en Algérie, et ensuite il a eu une carrière en tant qu'officier à Paris. En quoi Guy Brossolet est intéressant à étudier aujourd'hui? Avant d'entrer dans le fond de sa pensée, qu'est-ce qu'il a véritablement apporté, si on peut le résumer en quelques mots? En quoi ses thèses, ses réflexions sont intéressantes pour penser la guerre aujourd'hui?
Alors, la figure de Guy Brossolet, effectivement, est une personne intéressante à lire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est sur la qualité de sa réflexion qui vont l'amener à déduire un concept de non-bataille. Ce concept de non-bataille a été élargi ces dernières années au concept de techno-guérilla, et notamment dans une ère qui a été ouverte dans les années 70 sur l'utilisation de la force dans un monde mondialisé dominé par l'information. Je crois que son principal intérêt est justement qu'il a ouvert cette réflexion sur la nouvelle façon de faire la guerre lorsque, par exemple, Martin van Creveld explique la transformation de la guerre, finalement, il ne fait que porter un jalon supplémentaire à la nécessité de réfléchir sur la meilleure façon d'utiliser la force au XXIe siècle, finalement.
Alors, dans sa carrière, il a connu la guerre, hein, puisqu'il a été en Algérie, il a évidemment pratiqué ce genre de choses, il est passé par Saint-Cyr aussi, donc officier de l'armée française. En quoi sa biographie militaire a-t-elle contribué à élaborer la réflexion qui fut la sienne plutôt dans la deuxième partie de sa vie? C'est pas la fin de sa vie, mais enfin, du moins lorsqu'il était déjà un peu plus installé, qu'il avait terminé ses opérations militaires stricto sensu, mais en quoi c'est le contact de la guerre, que ce soit en Algérie, que ce soit également sa découverte de la Chine, ont pu contribuer à former sa pensée?
Alors, moi, j'ai eu le privilège, hein, de rencontrer Guy Brossolet en 2009, en 2010. Il a pu juger de mon petit travail biographique, mais j'ai surtout compris en le rencontrant que son parcours avait été finalement une suite d'étonnements. Et sa rigueur, son honnêteté ont fait qu'effectivement, il a porté son idée de la non-bataille jusqu'au terme de son édition. C'est ce qui a provoqué cette controverse dans les années 70. Son parcours est intéressant parce que finalement, il passe l'essentiel de son activité en dehors de la France, en dehors de Paris. Et finalement, lorsqu'il revient à l'école de guerre dans les années 52-55, finalement, il ne perçoit pas l'écart entre la doctrine et la manière dont il a éprouvé la guerre, la manière dont il l'a vécue à l'étranger, notamment en Asie.
Est-ce qu'il a été influencé par ce qu'on appelle la guérilla? Évidemment, quand on parle de l'Asie, il y a l'Algérie, il y a ensuite la guerre du Vietnam. Est-ce que on pense à un autre auteur qui est David Galoula, qui lui aussi a écrit sur la contre-insurrection? Est-ce que ces deux auteurs ont des affinités? Est-ce qu'il y a des éléments en commun? Ou est-ce que ce sont deux pensées différentes?
Alors, je pense que finalement l'expérience de Guy Brossolet est à mi-chemin entre celle de Galoula et celle de Trinquier, dans le sens où Brossolet a véritablement éprouvé la guérilla, il l'a faite en Algérie, en Kabylie, et notamment en 53, et c'est un souvenir qui l'a profondément marqué, celle de la reprise d'un piton et la manière dont il a pu juger de l'aléa qui s'exerce dans ces moments de grande confusion, qui sont des moments de bataille de guérilla où tout est possible, ouvert, et finalement, il l'a éprouvé dans la chair, dans sa chair, véritablement, et c'est ce qui l'a un petit peu écarté des territoires de guerre, puisque après, dans quelques mois après ce fait d'armes, eh bien, il demande à aller dans le grand sud algérien pour mener finalement une mission de quadrillage. Mais cette ambivalence entre la violence, la confrontation à la violence de la guerre de guérilla, et puis au contrôle de zone dans les grands espaces, dans l'esprit des méharistes, fait qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'il a sa principale expérience de la guerre. Et ça va, de mon point de vue, à la fois former son esprit, former son caractère et enrichir sa réflexion sur la manière de tenir un vaste territoire avec peu de moyens.
Alors, vous l'avez dit, il fait un séjour de formation par l'école de guerre au milieu des années 1950, et c'est à cette occasion-là qu'il réfléchit d'abord à ce que fut sa carrière précédente, et puis qu'il commence à élaborer ses réflexions sur la non-bataille, ce qui donne d'ailleurs lieu à un mémoire, et ça lance une controverse assez importante parce que ce qu'il dit va à l'encontre de la façon dont la guerre est pensée. On est dans cette optique de guerre froide, on se prépare à une invasion soviétique, on est en train, enfin en France, de développer l'arme nucléaire, donc on pense la bataille, on pense la guerre. Et lui explique que la guerre supprime la bataille, que la guerre actuelle supprime la bataille.
C'est justement le point qui est soulevé de manière la plus aiguë hein, dans ce travail, c'est que justement la guerre n'est pas pensée. Elle n'est pas pensée à l'aune de l'originalité, à l'aune de la du pragmatisme, de la prise en compte de la situation. Et c'est véritablement son principal intérêt. Il est dans la première partie de son travail, et c'est sur la non-bataille, sur l'analyse de la situation. Véritablement, il fait un constat qu'il y a un écart entre la manière dont la doctrine est prévue et la manière dont les choses peuvent se passer face au bloc soviétique. Et c'est bien pour cela qu'effectivement, il poussera la logique de sa réflexion jusqu'à rejoindre finalement un courant de pensée qui a déjà réfléchi la déclinaison du dispositif militaire avec l'introduction de l'arme nucléaire sur le champ de bataille. Jérôme de l'Espinois qui m'a fait le plaisir de faire une postface très charpentée sur cette époque de l'histoire des idées militaires, montre bien qu'effectivement, il n'a pas inventé finalement un concept original, puisque depuis les années 50, avec le maréchal Juin, il y avait déjà énormément de manières de présenter les implications tactiques, stratégiques du fait nucléaire dans la conduite du combat moderne. Et véritablement, en fait, l'originalité du travail de Prostelette, la deuxième partie sur le concept de la non-bataille, c'est une sorte de précipité de tout ce courant de réflexion alternative qui n'avait pas réussi à trouver sa place dans la réflexion doctrinale française de l'époque.
Alors, quelle est la réception du travail de Guy Brossolet? En quoi la controverse des Martels autour de ce sujet, parce qu'on estime que ça s'oppose à toute la réflexion nucléaire, à toute la pensée stratégique nucléaire telle qu'elle a été développée en France dans les années 1950-1970.
Alors effectivement, au début, le manuscrit initial, hein, les premières feuilles, puisqu'il va rédiger son travail en quelques mois à peine, il va être abouti en quelques mois. C'est un tour de force. Intellectuellement, ça reste encore pour moi une énigme qu'on puisse réaliser effectivement ce travail-là de cette manière-là, avec cette précision. En si peu de temps. Alors, il l'avouera, et j'en ai discuté avec lui, il y a eu énormément d'échanges, ça a même suscité un enthousiasme au sein de sa promotion, en voyant bien que d'autres façons de penser la guerre, de penser la doctrine française pouvaient se faire jour. Il a été, son travail a été alimenté par des critiques, de ses camarades, et même les cadres, et on lui a permis même de présenter ses conclusions. Mais dès lors que ça ne sortait pas l'enceinte de l'école de guerre, ce travail de réflexion, de débat était tout à fait bien porté. C'est lorsque il a eu la prétention de vouloir le publier que les choses se sont gâtées et qu'effectivement une pression hiérarchique s'est organisée pour que son travail ne soit pas publié. Mais finalement, le caractère déterminé, fort, presque naïf, j'oserais dire, a fait qu'il est allé au bout de sa démarche et qu'il a publié ses réflexions. Et finalement, dans ce petit travail, ce petit essai, il a trouvé un écho favorable dans des sphères politiques, dans des sphères militaires, qui avaient été écartées de tout le débat doctrinal des années 50 à 60.
Alors ça lui a pas réussi pour sa carrière militaire, puisqu'il a été quand même plus ou moins contraint de quitter l'armée. Donc il est à l'école de guerre, qui à l'époque s'appelait l'école supérieure de guerre. Le nom de l'école a changé plusieurs fois. Donc lui, il a la promotion 1972-1974. Et il quitte l'armée en 1979, alors même que normalement il aurait dû avoir une carrière qui aurait dû se poursuivre. Donc son ouvrage a quelque peu sabordé sa carrière militaire.
Alors, lui ne le présente pas comme ça. D'abord, il explique qu'il choisit de lui-même de quitter l'armée, effectivement, en 78-79, avec l'opportunité de rester à Pékin. Néanmoins, bon, il garde, et c'est mon sentiment, c'est mon analyse, qu'effectivement, il garde une certaine déception de ne pas avoir obtenu le commandement d'un régiment qui aurait été effectivement rapidement un marqueur pour pouvoir progresser, passer au généralat et puis poursuivre sa carrière militaire. Il l'aurait fait naturellement si cet événement éditorial n'était pas venu percuter finalement une trajectoire qui finalement depuis le début était un petit peu alternatif puisqu'il avait choisi la voie technique, la voie des langues étrangères, la voie diplomatique dans le corps militaire, qui peut-être ne le portait pas forcément vers des plus grandes destinées dans l'avancement des armées. Donc effectivement, ce livre a formé sa réputation. Mais déjà tout jeune, il était déjà connu pour un petit peu son esprit fort, voire bravache, parce que c'était un esprit curieux, aventurier, courageux même, et puis talentueux. Donc véritablement, c'est lui qui décide de partir. L'amiral Sanguinetti va argumenter effectivement dès 74 sur le fait que 75 dans un article du Point où il dit que Guy Brossolette est écarté puisqu'il est envoyé en Chine, mais Guy Brossolette lui-même me dira que c'était son choix. Et non seulement c'était son choix, mais c'est ce qui était prévu quelques années avant dans le cadre de son parcours de carrière, de déroulement de carrière. Donc quelle est la part de mise à l'écart, quelle est la part d'opportunité? Je pense qu'effectivement tout cela se rejoint bien facilement et que lui, finalement, décide de s'orienter vers une nouvelle aventure, sachant qu'il voit bien les choses se refermer du point de vue militaire.
Alors on va revenir sur sa réflexion proprement dite pour essayer de la préciser et puis de la clarifier pour éliminer tout ce qui pourrait être mal compris par rapport à ce qu'il a développé, d'autant que comme vous avez eu la chance de le rencontrer, vous avez pu en discuter de vive voix avec lui. Qu'est-ce que Guy Brossolet entend exactement par non-bataille? Est-ce que ça veut dire, si on s'arrête naïvement au terme, qu'on aura désormais une guerre sans combattre, que l'ennemi se rendra de lui-même, et donc que les batailles telles qu'on peut on a pu les connaître dans les guerres du XXe siècle sont terminées? Est-ce que c'est uniquement une guerre de guérilla, une guerre d'attrition, mais sans artillerie, si je puis dire, sans bataille aérienne? Qu'est-ce qu'il entend exactement par ce concept?
En fait, le concept, c'est l'usure. C'est véritablement provoquer suffisamment statistiquement des dégâts à un adversaire supérieur en nombre et en puissance pour le contraindre à ralentir sa percée et faire en sorte que de l'encourager à bien réfléchir, à aller plus avant dans son entreprise. Finalement, c'est un travail d'amortissement grâce à un dispositif maillé sur une bande qui, comme il le disait, allait de Bâle à Dunkerque et faire en sorte d'amortir le premier choc du pacte de Varsovie pour permettre aux politiques de jouer son rôle de pleine dissuasion en s'appuyant sur la dissuasion nucléaire.
D'accord, donc il ne supprime pas le nucléaire ou il ne passe pas outre. Le nucléaire
Ah
fait
non.
partie de sa réflexion, enfin
Ah.
l'usage de l'arme atomique.
Tout à fait. Et c'est bien pour ça que ce concept est bien enchâssé dans la est un concept que j'oserais dire, de loyaliste, de légaliste en quelque sorte, il s'intègre bien dans le dispositif nucléaire. Et c'est aussi, et quand il désigne le concept de non-bataille, en fait, il s'attaque surtout à l'inanité de l'outil du corps de bataille, qui était impropre finalement à ralentir la poussée russe. Soviétique, pardon, de l'époque. Et donc, il imagine un éparpillement, une dissémination de forces mobiles en s'appuyant sur des innovations techniques, en faisant le point notamment sur la vulnérabilité croissante du char de bataille qui est toujours porté au nu jusque très récemment. Peut-on faire la guerre sans char de combat? C'est la question qu'il pose et à laquelle il apporte une réponse assez définitive.
Et alors, quelle est sa réponse?
Et en fait, le char serait dans un deuxième échelon. Et devant, effectivement, on aurait des éléments de contact très fugaces, très autonomes, qui permettraient de sonder le terrain, d'acquérir du renseignement, pour permettre justement le deuxième effet cisaille, là, de régiments beaucoup plus durcis, appuyés avec des hélicoptères notamment, qui est finalement la latte. L'aviation légère de l'armée de terre qui va monter en puissance dans les années 80 pour arriver au concept de force aéromobile. Donc le char devient très vulnérable et on le sait depuis 56 avec la guerre au Proche-Orient. Et donc lui dit ben il faut qu'effectivement on puisse s'appuyer sur le terrain, s'accrocher au terrain et faire en sorte d'avoir un premier niveau de test de combat avec des armes légères pour un petit peu une force évanescente. 60, de façon à, là encore une fois, ralentir les percées de la supériorité de masse et de feu de l'Union soviétique telle qu'elle était perçue à l'époque.
Est-ce qu'il pense également la place de la communication, de la désinformation dans sa non-bataille?
Alors, c'est peut-être la limite, en tout cas c'est la limite conceptuelle qu'il a très bien marquée, c'est-à-dire que déjà, il ne parle que de l'armée de terre dans son livre. Il ne parle pas du rôle de l'armée de l'air ni celui de la marine. Donc en ça, c'est une première limitation, mais c'est un choix, puisqu'effectivement, il est sur un théâtre continental, donc essentiellement délivré par l'armée de terre. Il s'en tient effectivement à une réflexion continentale de combat terrestre, duquel la partie aérienne et maritime, bien évidemment, est écartée. La deuxième limitation, c'est qu'effectivement, cette guerre de l'information n'est pas intégrée dans sa réflexion et c'est pas son objet véritablement. Et c'est bien pour ça aussi que c'est peut-être la limitation qu'on peut enfin, le vœu qu'on pourrait avoir d'une lecture de l'essai sur la non-bataille à l'heure actuelle, à l'heure de la guerre hybride actuellement, à la guerre hors limite hein, qui a été dessinée par les deux généraux chinois dans leur livre Capital des années 90, c'est effectivement quelque chose qu'ils n'abordent pas. Je pense que si Brossolet revenait aujourd'hui, c'est peut-être le sujet sur lequel il travaillerait et sur lequel il apporterait des réflexions. Mais à l'époque, l'information n'est pas intégrée. La seule façon, la question de l'information est traitée en termes d'acquisition du renseignement et de la transmission de l'information avec des outils performants et une nouvelle articulation d'un commandement qu'il appelle décentré. Et c'est là toute l'originalité de son travail qu'on retrouve dans l'idée du jeune lieutenant engagé en Algérie, où finalement le combat d'usure, le combat de guérilla, le combat de style indirect de cette nature va se faire avec en étant sur un commandement décentralisé.
Alors, en France, son ouvrage est accueilli avec une certaine retenue et distance, mais en revanche, il est plutôt bien accueilli à l'étranger, il a été traduit en plusieurs langues. Est-ce qu'on a des exemples d'armées étrangères qui auraient repris ce concept de non-bataille et qui l'auraient utilisé lors de combats menés?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que il a été battu froid, effectivement, du point de vue institutionnel. Néanmoins, en France, c'est un succès de librairie pour un livre de tactique assez confidentiel. Il y a eu quand même 4 éditions, près de 5 000 ouvrages diffusés. Il est très bien reçu, notamment dans la réserve, chez les officiers de réserve. Et ça s'explique très bien puisqu'il y a un rôle sur la rénovation de la défense opérationnelle du territoire. Il est très bien reçu également dans les milieux politiques, dans les milieux journalistiques spécialisés. À l'étranger, effectivement, il est également, il fait l'objet d'une grande curiosité, d'un grand intérêt. D'abord parce que, comme je l'ai dit, pour le courant français, des réflexions sur les défenses alternatives, en Allemagne notamment, des chercheurs, notamment comme Horst Affeld, mais également comme Ernst Spanocki, qui est en Autriche, sont des gens qui réfléchissent leur outil de défense à l'aune des mêmes menaces en quelque sorte. Et finalement, il y a une convergence. Brossolet est finalement l'émergence d'un concept en France, mais de la même façon qu'il s'est affirmé en Allemagne au travers des travaux d'Horst Affeld sur la défense alternative, en Autriche, où effectivement le dispositif autrichien est ce qui se rapproche le plus d'un dispositif de ce type. Mais finalement, si on réfléchit un petit peu sur le dispositif de défense territoriale suisse, on est quasiment sur des concepts un petit peu similaires. Il y a une grande famille des défenses alternatives, et notamment en Europe, qui sont tout à fait sensibles à ce travail. Et si l'édition finlandaise a été réalisée, c'est parce que, effectivement, ce travail de défense de l'usure faisait écho à l'histoire récente de la Finlande contre l'armée russe, notamment en 1943. Donc tout ça fait qu'effectivement, il est très bien reçu à l'étranger. Et s'il est très bien reçu à l'étranger, et notamment en Belgique, c'est à la fois parce que ses camarades belges de l'école de guerre ont goûté sa camaraderie, ont apprécié la qualité de ses échanges, et finalement, ça a permis aussi de relancer, lorsque le travail a été édité, des réflexions, des débats, peut-être plus ouverts en Belgique, en Allemagne et même en Autriche. Ça peut aller même en ex-Yougoslavie, où il y aurait existé une traduction en serbo-croate.
Vous avez évoqué le cas de la réserve. Ça, c'est un sujet, c'est un peu un serpent de mer, parce qu'à la fois on évoque beaucoup la réserve, et en même temps, on pense pas forcément son insertion dans la structure militaire générale. Comment est-ce que Guy Brossolet voyait justement cet aspect de réserve, sachant que lorsqu'il écrit, on est encore dans le cas d'un service national universel, donc tous les jeunes hommes français passent par le service militaire, ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, effectivement, la vision qu'a Guy Brossolet, elle est marquée par la force du concept de contre-guérilla. Et je pense qu'il a tout de suite l'idée qu'effectivement, la puissance d'une guérilla est liée à son ancrage territorial, à sa connaissance du terrain, à la connaissance du milieu, et finalement, qui plus que les gens qui vivent sur un territoire sont les plus à même de mener des combats de secteur. C'est véritablement là-dessus où finalement les officiers de réserve tiennent en quelque sorte la clé de leur importance dans un dispositif militaire qui finalement les orientait plus sur l'alimentation du corps de bataille et des régiments de défense face à l'Est. Donc là encore une fois, je pense que la réserve a trouvé en Brossolet un héros en quelque sorte qui porte l'idée d'engagement, l'idée de défense du territoire national.
Est-ce que dans les guerres récentes, alors bon, l'Ukraine, mais l'Ukraine c'est encore en cours, mais celles qui ont eu lieu un peu avant, est-ce que on a des applications des théories de Brossolet en Irak, au Liban, en Libye ou ailleurs?
Alors, je me suis permis effectivement de m'appuyer sur le rétexte de l'armée américaine sur le conflit au sud du Liban en 2006 pour voir effectivement une sorte de déclinaison du modèle de Brossolet. Il faut avoir à l'esprit que lorsque j'ai discuté de ces questions avec Guy Brossolet, à la fois il me disait que pour lui, la page était tournée et qu'il n'y avait pas, enfin, c'était vraiment un écrit ponctuel et qu'il n'avait pas vocation à faire école. Néanmoins, comme il captait à la fois l'évolution générale de la guerre à la fin du XXe siècle et au début du XXe, finalement, ces idées ont réussi à se concrétiser dans une guérilla qui s'est sophistiquée. Et en 2006, avec le Hezbollah en particulier, là, on a véritablement un dispositif qui s'apparente en grande partie à ce qu'il a pu concevoir. Mais comme beaucoup l'ont fait, et je pense que le concept de techno-guérilla qui est très bien aussi analysé par Joseph Enrantin montre qu'effectivement on est sur un stade supérieur. L'intelligence, si j'ose dire, du Hezbollah en 2006, c'est d'avoir, lui, intégré la dimension informationnelle, ajouté finalement cette dimension informationnelle que vous évoquiez au concept de non-bataille. Mais il faut bien noter que ce concept de, en 2006, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de l'arme nucléaire, si j'ose dire, en 2006, c'est l'information. Ce n'est plus l'arme nucléaire telle que conçue dans le dans l'ouvrage de Brossolet. Et finalement, c'est celui qui a le réussi à défaire parce que user les la force, la supériorité de Saal en 2006, ce qui nous fait penser qu'effectivement, c'est la véritable, enfin c'est un enfant, enfin c'est une déclinaison assez stricte de la du concept de non-bataille.
Merci beaucoup, Christophe Maresca, d'avoir présenté aux auditeurs de Conflit la pensée de Guy Brossolet et en quoi celui-ci fut important. Et puis on se rend compte que la réflexion stratégique française a été extrêmement riche tout au long du XXe siècle. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Non-bataille, vraie guerre, Guy Brossolet ou les racines françaises des guerres modernes, qui est paru aux éditions de l'Institut de stratégie comparée. Institut qui a été fondé par le professeur Hervé Couteau-Bégari. Les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, site internet sur lequel vous pouvez également retrouver nos numéros en ligne ainsi que nos anciens numéros. Vous pouvez les acquérir en format papier et en format numérique. Et puis, puisque nous sommes au mois de septembre et en ce temps de rentrée, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à Conflit ou abonner des proches pour leur permettre ainsi de disposer d'une analyse et d'une réflexion géopolitique tout au long de l'année. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.